Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chaque année, début octobre, et ce depuis 1999, on célèbre la Semaine mondiale de l'espace, conformément à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif, célébrer la contribution des sciences et des technologies spatiales à l'amélioration de la condition humaine. À cette occasion, on s'intéressera dans cette émission aux usages du numérique et notamment de l'intelligence artificielle au service de l'activité spatiale. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Katia Contant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en droit international de l'espace extra-atmosphérique, ou CEDIN, le Centre de droit international de l'Université Paris-Nanterre, et chercheur associé à la chaire espace de l'ENS.
Merci de l'invitation.
Pour échanger avec vous, Rosaire Almenard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en droit également, mais à l'Université de Valence en Espagne, d'où votre participation à distance aujourd'hui, avec une thèse sur le droit de l'intelligence artificielle et de la responsabilité pour les dommages. Vous menez vos recherches en lien avec le droit de l'espace, vous vous investissez notamment au sein du Conseil consultatif de la génération spatiale, qui est un organisme bénévole représentant les jeunes professionnels de l'espace aux Nations Unies. Et en studio enfin, Jacques Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission au Centre national d'études spatiales, le CNES, où vous êtes chargé des questions d'éthique. Votre dernier ouvrage sur la question s'intitule « Des colonies dans l'espace, l'ultime utopie », paru aux éditions Odile Jacob en juin dernier. On en parlera au sein des discussions riches que promettent vos trois regards. Droit de l'espace et numérique, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission des temps électriques.
Capitaine, regardez, le professeur Tournesol.
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, Tintin, mon assistant, Monsieur Wolf, éprouvait mon nouveau casque spatial. Oh, capitaine Haddock, mon vieil ami.
Oh. Oh, faites donc attention, ectoplasme, logarithme, cyclotron, pachybouzouk.
Mais dites-moi, que faites-vous ici, professeur ?
Eh, question fort pertinente, cher Tintin, à laquelle je vais répondre sans embâge. Ouh, je travaille à un projet super secret de grande portée, le projet X.
Le projet X ?
Oui, ce projet consiste à construire une fusée pour aller sur la Lune.
Pour aller sur la Lune ?
1 000 000 000 sabords, le professeur est un vrai farceur. Et qui est-ce qui va embarquer à bord de cette fusée ?
Personne, voyons, seulement des animaux, quelques souris. Et si l'expérience réussit, on essaiera avec des êtres humains. Nous devons être les premiers à fouler le sol de la Lune. Ça ne me dit rien qui vaille.
En 1950, Hergé envoyait Tintin et ses fidèles acolytes sur la Lune. 7 ans plus tard, l'ère spatiale commence, pour de vrai, en 1957, avec le lancement dans l'espace du premier satellite artificiel, Sputnik 1, par l'Union soviétique, et il faudra attendre 1969 pour qu'un homme marche sur la Lune. Depuis, la conquête spatiale n'a cessé de s'intensifier, l'homme rêvant à présent à la colonisation de l'espace, comme vous le discutez dans votre dernier ouvrage, Jacques Arnoux. L'espace recouvre plusieurs définitions. Au sens du dictionnaire de spatiologie, le terme renvoie à une étendue, à un domaine, celui de l'espace extra-atmosphérique. Et il renvoie en outre aux activités humaines se rapportant à cet espace. Si l'on pense évidemment assez spontanément à l'aspect scientifique de ces activités, ces dernières peuvent également prendre une dimension économique, stratégique ou encore politique. Le lien avec l'évolution, pour ne pas dire la transformation numérique de nos sociétés, est fait. Dans cette zone extra-atmosphérique, à part s'imaginer symboliquement une fusée et ses cosmonautes en apesanteur, quelques satellites aussi, difficile parfois pour le commun des terriens de se rendre concrètement compte de ce qui s'y passe. Et bien aussi une révolution numérique. Comme dans de nombreuses matières, aujourd'hui, le recours à des outils dotés d'intelligence artificielle semble notamment donner de nombreuses perspectives aux activités spatiales. Or, l'on sait les questions accompagnant le développement de l'IA très grande en termes technologiques, mais également juridiques, politiques, économiques et même éthiques. Alors, comment le droit de l'espace s'adapte-t-il à ces évolutions ? On en parle dans un instant avec nos invités.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Fly Me to the Moon, ce n'est pas Count Basie ni Frank Sinatra que l'on suivra ici pour rejoindre les étoiles, mais l'IA plus globalement et le numérique. L'IA est l'outil numérique au service de l'activité spatiale, nous allons en parler ensemble. Plusieurs cas d'utilisation du numérique vont être discutés avec vous dans cette émission, plus particulièrement l'IA, je l'ai dit, dans le domaine spatial, mais le but est de mesurer les enjeux et in fine les régulations juridiques de tout ça. Alors pour débuter, Rosaire Almenard, avec vous certainement, on peut faire un lien direct avec le thème de la Semaine mondiale de l'espace cette année, la question environnementale. Effectivement, les préoccupations environnementales occupent le devant de la scène aujourd'hui, globalement. Comment l'utilisation de cet espace extra-atmosphérique, grâce au numérique, peut-il, à votre avis, contribuer à la protection de l'environnement terrestre ?
Merci pour la question. En effet, l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, notamment grâce aux technologies numériques, offre de nombreuses opportunités pour contribuer à la protection de l'environnement terrestre. Par exemple, les satellites peuvent collecter des données en temps réel sur des phénomènes tels que la déforestation, la fonte des glaciers, la pollution des océans ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Et ces informations précises permettent de surveiller l'état de la planète avec une précision inégalée, facilitant ainsi, par exemple, la prise de décisions éclairées en matière de politique environnementale et de conservation.
Katia Coutant, est-ce que vous voulez réagir à ces exemples ?
Oui, je me joins à Rosaire sur cette vision du spatial. On reproche souvent à l'industrie spatiale d'être une industrie polluante, mais quand on regarde l'usage que l'on fait des activités spatiales, ce sont en partie des usages qui ont des fins de protection et de surveillance environnementale. On a évidemment les données satellitaires, que ce soit des données d'observation ou des données de télédétection. Et tout cela sert à effectuer une cartographie, une surveillance, par exemple la surveillance des glaciers et des océans, se fait principalement via l'espace. Le suivi des sols, la détection précoce aussi des incendies et des forêts se fait notamment avec les données de télédétection. Donc de manière globale, la lutte contre le changement climatique et la surveillance des ressources naturelles passe par le spatial et est l'un des enjeux centraux en matière de protection de l'environnement.
Et alors parmi peut-être ces questions environnementales, ces problèmes environnementaux, on a aussi celui de la sécurité publique qui est un enjeu croissant. Et ici, on peut se poser la question de l'accumulation des débris spatiaux, c'est une autre dimension, une autre question, mais qu'on peut lier à cette question environnementale. Ce dont on parle, c'est des objets plus ou moins gros qui sont actuellement en orbite du fait de l'explosion, de la collision, de l'abandon parfois de certains satellites. Alors, dans un rapport d'avril 2022, le Bureau des débris spatiaux de l'Agence spatiale européenne avait quand même estimé un bon million, je crois, de le nombre de ces débris au-dessus de nos têtes. Alors, comment l'IA peut-elle contribuer ici à la gestion de ces débris spatiaux ?
On a plusieurs moyens d'utiliser l'IA pour la gestion de ces débris spatiaux. Il faut savoir que les débris ont plusieurs sources. On a des débris qui sont dus à la fragmentation d'objets spatiaux qui soit ont été cibles de tests antisatellitaires en fait, par les États, soit se sont percutés les uns contre les autres. On a aussi beaucoup de débris qui sont de petits débris de moins d'un centimètre, notamment par exemple des restes de peinture des différents objets spatiaux. L'IA, elle a plusieurs, il y a plusieurs usages de l'IA en la question, notamment l'identification des débris. On a un problème de suivi de débris. On a du mal à savoir où sont les débris et combien il y en a précisément. C'est pour ça qu'on parle d'estimation. Il existe un recensement des débris. On a à peu près 20 000 débris qui sont recensés par les différents organismes, surtout les Américains et les Russes qui ont la plus grande capacité en la question. Mais le reste des débris sont difficiles à identifier. Et en ce sens, l'IA a un rôle à jouer puisqu'elle permet de calculer les trajectoires, d'anticiper potentiellement les trajectoires de certains débris et donc aussi de prévoir l'adaptation des satellites en usage pour éviter notamment les gros débris. Ça, c'est un premier point. Accessoirement, l'IA est aussi utilisée dans la conception même des objets spatiaux pour éviter par la suite de créer davantage de débris, donc prévoir des nouveaux objets spatiaux qui impliquent moins d'abandon dans l'espace extra-atmosphérique.
Est-ce que, Rosaire Almenard, à distance, vous voulez réagir et compléter éventuellement ces indications ?
Oui, bien sûr. Je joins Katia ici. En effet, dans le contexte de cette activité spatiale, il y a essentiel pour améliorer la connaissance de la situation de l'espace, ce que Katia a très bien expliqué, parce que les nombres des satellites et aussi des débris spatiaux et des méga-constellations ne cessent d'augmenter. Et alors, il devient de plus en plus urgent d'éviter les collisions et de gérer le trafic orbital. Et ici, l'IA peut aider, en effet, en traitant des quantités massives de données sur les positions, les vitesses et les trajectoires des objets spatiaux pour suivre et prédire les collisions potentielles avec plus de précision et d'efficacité que les opérateurs humains. Cette capacité est cruciale, par exemple, pour prévenir les fameux syndromes de Kessler, qui représente l'une des menaces actuelles les plus importantes pour l'utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous citez quelque chose peut-être méconnu pour les auditeurs.
Oui, le syndrome de Kessler, c'est comme une chaîne des objets. Alors, on y a des objets à l'environnement spatial qui créent de plus en plus des débris spatiaux, et alors c'est comme une chaîne. On y a des débris spatiaux initiaux qui créent de plus en plus, et alors ils créent un problème de plus en plus, une situation de plus en plus dangereuse qui doivent être réglées par des cadres juridiques et des technologies comme l'IA qui peuvent aider à éviter cette situation.
Un effet exponentiel, effectivement, indigué. Alors, Jacques Arnoux, dans ce rôle que l'on voit dans l'IA pour régler ces difficultés exprimées par Rosaire et par Katia, quels sont les avantages et les limites aussi que vous percevez à ça ?
En nous écoutant, je trouve que l'exemple de l'IA est un très bel exemple qui montre que ce n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un instrument. En faisant juste un tout petit retour historique, parce que c'est un de mes dadas, vous avez très, très élégamment évoqué Tintin au début de cette émission. Et dans cet album, parce que c'est ces deux albums, dans le premier album du voyage de Tintin depuis la Terre jusqu'à la Lune, il y a un petit carton très intéressant. Tournesol avait prévu dans sa fusée une espèce de télescope dans lequel il regarde la Terre. Et donc, on a 10 ans ou plus que ça, 11 ans avant qu'un premier homme effectivement monte dans l'espace, Yuri Gagarin, Hergé qui imagine, mais qu'est-ce que vont dire les terriens lorsqu'ils vont se trouver à quelques milliers ou dizaines de milliers de kilomètres de la Terre. Et donc, dans ce télescope, on voit apparaître la Terre, un très beau dessin, que je vous conseille d'aller voir l'album. Et l'expression de Tintin et de ses compagnons, c'est de dire « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle !» Il n'y a aucun sentiment écologiste, environnementaliste. Donc tout ça, ce n'est pas d'actualité. Donc dans les 10 ans avant, et même un peu au-delà, le début réellement des activités spatiales. Donc la prise en compte, ou le souci environnemental qui était évoqué par Roser tout à l'heure, et puis le souci des débris spatiaux, tout ça est venu après. Il ne faut jamais l'oublier. Et que ça soit l'IA, comme il a été dit, pour traiter ces masses de données absolument gigantesques, ou les instruments spatiaux en général, tout ça, c'est très beau, mais ça n'a aucune efficacité si nous, les humains, nous n'avons pas la conscience qu'il y a réellement un défi à relever. Donc, c'est la première limite de l'IA. C'est un outil absolument incroyable, aujourd'hui indispensable, parce que, comme il a été dit, les instruments spatiaux nous offrent une vision globale de la planète, ce que jusque-là, nous n'avions pas. Mais ça veut dire aussi que nous avons une masse de données de plus en plus lourde à gérer. Et seule l'IA peut la gérer. Donc, un instrument indispensable, efficace, tout ce qu'on veut. Mais tout ça ne sert strictement à rien si, au final, à travers le droit que vous, les juristes, pouvez élaborer, les politiciens qui sont capables aussi de faire appliquer le droit, parce qu'il faut aussi le faire appliquer, et aussi ceux en amont qui vont peut-être préparer le travail des juristes, les philosophes, pourquoi pas les éthiciens et d'autres, s'il n'y a pas un apport humain réel. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Vous le disiez, l'espace, c'est un ensemble de techniques plus ou moins innovantes, mais surtout très très globales. Où se trouve l'humain et comment nous prenons soin de toujours garder l'humain au départ et surtout à la fin pour appliquer tout ça. Et ça, l'IA ne nous dira jamais ce qu'il faut faire. On lui dit, regarde les débris, il va les regarder. Mais je veux dire, c'est pas l'IA qui a découvert les débris. Le syndrome de Kessler, c'est les années 70, il y a bientôt 50 ans. Et aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au début de la gestion des débris.
Sur cet élément de conscience, si je peux me permettre de rajouter, en effet, ça se transparaît aussi, cette absence de conscience de l'enjeu environnemental, ça transparaît historiquement dans le droit international relatif à l'espace extra-atmosphérique. Parce que quand on regarde les 5 grands traités sur l'espace, on n'a pas ou quasiment pas de question de protection de l'environnement. On a légèrement à l'article 9 du traité sur l'espace, mais on n'a aucun point sur la question des débris spatiaux. Alors même que certains de ces textes ont été adoptés dans les années 1970. Donc l'enjeu n'apparaissait pas en matière juridique au XXe siècle, et c'est à partir des années 2000 qu'il y a eu une prise de conscience, ou du moins une transposition dans le domaine juridique de cette prise de conscience des débris spatiaux, avec notamment les lignes directrices, les guidelines de ce qu'on appelle en anglais l'IADC, donc le comité de coordination des débris spatiaux, donc des lignes directrices qui ont été adoptées pour essayer de limiter la quantité de débris spatiaux et réfléchir à des modalités permettant de réduire aussi le nombre de débris.
Juste pour information, le ADC, comme vous le dites, s'appelle lui-même le club des pollueurs. Et donc, il faut savoir que ce sont les pollueurs eux-mêmes. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ce sont les pollueurs, oui, entre guillemets, oui, eux-mêmes, qui sont parfaitement conscients que leur pollution, dont il a fallu se rendre compte. Parce que comme il a été dit auparavant, c'est pas si simple que ça de repérer des débris millimétriques ou centimétriques à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude. Donc, cette prise de conscience a été assez lente. Et là, pas la partie juridique, mais c'est encore de la soft law. Enfin, je crois que c'est ce qu'on appelle, parce que je ne suis pas un juriste, je ne suis pas spécialiste des termes. Mais vient de fait, c'est intéressant, de la part des pollueurs eux-mêmes, en se disant, attention, il faut que nous nous imposions des règles de bonne conduite. Et leur demande aujourd'hui de ces pollueurs, c'est que cela passe dans du droit un peu plus solide. Et là, évidemment, on passe dans la diplomatie et c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Mais ça fait déjà des années que ces acteurs à la fois demandent et aussi proposent, enfin avancent des textes pour qu'on puisse avoir des contraintes plus grandes en termes d'environnement spatiaux.
Roser Almenard, si vous voulez réagir à distance, évidemment, je vous laisse également le faire.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que mes collègues ont dit, et je crois que cette prise de conscience est très importante si nous voulons en effet aborder ces sujets d'une manière Total, mais aussi je voudrais révéler quelques des autres limites que je crois qu'il y a présentes pour l'utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique, comme par exemple qu'il y a purée dans certaines circonstances contribuer à des résultats inattendus. Mm-hmm. Alors, si on a un système d'IA chercher d'échirer les orbites des satellites ou d'éviter les débris tombés en peine, hein, il pourrait aussi faire des erreurs de calcul et provoquer des collisions qui créeraient encore plus de débris en orbite, comme je l'ai mentionné avant les syndromes Kessler. Mais aussi, il y a d'autres risques comme la contribution aux militarisations de l'espace ou aussi comment les systèmes d'IA exacerbent l'inégalité dans l'espace, que actuellement l'accès à l'espace est encore largement dominé par quelques nations riches et entreprises privées. Et l'IA, tout en offrant un grand potentiel, pourrait aussi creuser ces fossés si elle n'est pas rendue accessible à tous les États. Alors, si seuls quelques acteurs possèdent les systèmes d'IA les plus avancés pour gérer les trafics spatials ou optimiser les ressources, ils pourraient aussi monopoliser certains créneaux orbitaux ou certaines ressources spatiales. Et cela pourrait en fait limiter la capacité des pays en développement à accéder durablement à l'espace, perpétuant ainsi les inégalités dans l'utilisation de l'espace.
Alors on va revenir sur certaines des limites, effectivement, même sur plusieurs limites que vous citez, et en lien, et peut-être même avant ça, sur un terme que vous aviez, je crois, nommé dans votre réponse précédente, la question des méga-constellations. Ici, c'est une autre question d'actualité qui nous permet d'envisager le sujet des communications entre le sol et l'espace, on va dire, de satellite à satellite aussi. Et c'est un sujet d'actualité parce qu'évidemment, là, on pense à la méga constellation Starlink, qui est exploitée par la société SpaceX, détenue par Elon Musk, qui fait parler d'elle. Alors Starlink est connu pour fournir un accès à Internet dans des endroits du monde où les réseaux de télécommunications sont absents ou insuffisants. On en entend parler là ces derniers jours au service d'un Wi-Fi dans les avions, mais ce dont on entend un peu moins parler, c'est que récemment Starlink a été mise en cause par les services secrets français qui peinent à avoir accès manifestement aux données du super satellite. Alors Katia Coutan, est-ce que vous voulez réagir sur ce point ?
Oui, tout à fait. C'est une information qui a été dévoilée par le Canard Enchaîné au début du mois. Qui indiquait que les services français, les services secrets français n'étaient pas ravis du partenariat entre Air France et Starlink, puisque Air France a décidé d'avoir recours à Starlink pour permettre d'avoir un Wi-Fi à bord plus rapide et plus efficace. Cependant, traditionnellement, il y a un accord, du moins, entre les services français et les différents opérateurs qui permettent l'accès à Internet, et cela permet d'avoir un contrôle de la part des services de renseignement, normalement dans un respect quand même d'un certain droit à la vie privée, je dis bien normalement, puisqu'il est difficile de contrôler ce que font les renseignements. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée de Starlink et c'est la question de ces opérateurs qui dépendent de méga constellations, on a plusieurs enjeux qui apparaissent. On a cet enjeu assez classique, en effet, du lien entre l'opérateur privé étranger et l'État. Mais de manière générale, les méga constellations, elles posent de nombreux soucis. Ce sont donc de très nombreux satellites en orbite basse qui posent autant de soucis en matière d'attribution de fréquences et donc parallèlement d'orbite par l'Union internationale des télécommunications, mais aussi en matière de pollution visuelle et en matière de risque de débris, puisque on a un nombre de satellites qui devient exponentiel, du moins qui prend vraiment de l'ampleur.
Rosaire, je crois que vous voulez réagir.
Oui, je voulais dire que pour moi, le cas de Starlink met ainsi en lumière un paradoxe, car d'un côté, il représente une avancée technologique majeure pour l'inclusion numérique et aussi pour tous ces bénéfices pour les régions sous-développées et comment elles peuvent accéder à l'Internet. Mais de l'autre, il soulève aussi des questions sur la gestion des données sensibles et les contrôles étatiques sur des infrastructures critiques. Alors, les États se trouvent confrontés à la nécessité de redéfinir leur approche de la souveraineté technologique dans un contexte où des acteurs privés, souvent internationaux, comme Katia a souligné, prennent des places de plus en plus prépondérantes dans les infrastructures mondiales de communication. Et cette situation pourrait inciter les gouvernements à adopter des réglementations plus strictes concernant l'accès et la gestion des données générées par ces réseaux satellitaires. Et ici, je crois que les préoccupations du service secret français illustrent bien ces dilemmes. Comment on fait garantir un accès sécurisé aux informations, mais sans compromettre l'innovation et l'expansion de ces nouvelles technologies spatiales? C'est ma question.
Alors là, vous anticipez effectivement un point que j'allais exprimer après, mais allons-y du coup, juste sur les règlements dont vous parlez. On connaît le RGPD, la question de l'encadrement et de la collecte des données que vous citez est effectivement une question cruciale dans le contrôle et la gestion de ces outils. Donc, spontanément, le juriste européen va se pencher sur le RGPD, puisqu'on parle de collecte et de protection des données. Mais comme vous évoquez la création et la constitution d'un cadre réglementaire éventuellement autre, je m'interroge sur ce à quoi vous faites référence.
Oui, en effet, on a les traités spatiaux internationaux, précédemment mentionné, et particulièrement les traités sur l'espace de 1967. Mais ces traités ne couvrent pas spécifiquement la protection des données personnelles obtenues par ces moyens de téléobservation, par exemple, parce que ces accords sont principalement centrés sur la coopération pacifique, l'utilisation militaire de l'espace, et bon, des autres questions très importantes. Mais ils laissent un vide juridique en ce qui concerne la régulation de la gestion des données collectées depuis l'espace, qui ne ressort pas non plus les principes régissant la télédétection spatiale de 1986, qui se centre surtout sur les intérêts de l'État plutôt que sur les intérêts personnels. Alors, on a deux cadres réglementaires, les traités sur l'espace et les principes régissants, qui sont des principes non contraignants, mais ils n'abordent pas comment gérer ces données personnelles, les traitements de ces données. Et alors ici, comme vous avez très bien souligné, on a les règlements généraux sur la protection des données à l'Union européenne. Mais par exemple, il y a des autres cadres réglementaires comme la California Consumer Privacy Act aux États-Unis, qui sont applicables à l'utilisation et au traitement des données personnelles à l'espace. Par exemple, par rapport au règlement général sur la protection des données, si ces données permettent d'identifier indirectement des personnes via la localisation de leurs propriétés ou mouvement de véhicules, elles peuvent être soumises aux obligations du RGPD, à condition que les personnes concernées soient des citoyennes européennes ou que ces activités de traitement aient pour but d'offrir des biens ou des services aux personnes physiques résidentes de l'UE. Mais le RGPD s'applique dans l'espace, mais il y a quelques enjeux juridiques que j'ai trouvés quand j'ai conduit mes recherches. Mm-hmm. Et spécifiquement, c'est quand on parle de l'IA, car les traitements de l'imagerie spatiale peut bénéficier de l'implémentation d'il y a, par exemple, à ces traitements, normalement prendre des heures, des jours ou des semaines à examiner. Mm-hmm. Et on peut analyser d'une manière automatique par des composants d'IA pour déterminer stratégiquement quel type de données est suffisamment important. Mais ici, on a une question fondamentale qui est lié au article 22 du RGPD et les droits de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traité automatisé. Alors, par exemple, mes questions sont, si on a un droit de ne pas être soumise à une prise de décision individuelle automatisée, peut-il être aussi étendu aux données spatiales ou pas? Et aussi, étant donné que les données spatiales peuvent être analysées à l'aide de ces technologies, des technologies de reconnaissance faciale, et combinées avec des autres données, comme des données de localisation, l'utilisation d'IA peut-elle aussi mettre en péril la confidentialité des données, même s'il y a des applications comme Google Earth qui brouillent les visages et les plaques d'immatriculation? Ce sont mes questions principales que j'essaye de répondre à avec mes recherches.
Je vais laisser Jacques Arnoux réagir à vos propos.
Simplement pour réagir, enfin la réaction d'un non-juriste, parce que je fréquente quand même suffisamment les juristes depuis longtemps et je comprends à la fois l'importance de votre approche et en même temps le côté technique de votre approche. Je pense qu'en même temps, il faut quand même regarder les choses de manière assez, peut-être un peu, pas innocente et ni naïve, mais un peu concrète. Si aujourd'hui, les services secrets s'inquiètent du fait que les avions d'Air France vont être reliés à Starlink et pas à un autre système, parce que nous n'avons pas d'autre système à proposer à Air France. Et que c'est une question de, voilà, pratiquement de loi de marché. Je veux dire, on peut monter toutes les réglementations qu'on veut, mais à un moment donné, nous sommes quand même liés à un marché. Je suis désolé, enfin, c'est le plus offrant, enfin le plus offrant pas seulement économiquement, mais aussi techniquement parlant. Si Air France, alors aujourd'hui, est moins tentée par Boeing qu'auparavant, mais a pu acheter des Boeing, c'est qu'à une époque, entre Boeing et Airbus, pour un certain nombre de missions que Air France voulait assurer, il préférait Boeing à Airbus, et puis ça peut changer au fur et à mesure. Il y a aussi, à un moment donné, la réalité économique. Donc, dommage que ce soit Starlink qui permette la connexion Wi-Fi des avions d'Air France, mais ça veut dire qu'en France, nous n'avons pas été capables de développer une technologie suffisamment efficace pour que Air France se tourne vers une technologie européenne ou française. Parce que quand on dit Starlink, c'est très bien pour des zones peu, comment dirais-je, des zones un peu blanches, ces zones blanches sont parfois extrêmement étendues. Enfin, un de mes amis habite sur une île bretonne, il a constaté que Starlink est plus efficace pour être connecté que les services de nos entreprises nationales. Mmh. J'en suis vraiment désolé, mais si demain, effectivement, les services français ne peuvent pas écouter les propos de mon ami sur son île bretonne parce que ça passe par Starlink, il y a des moments où aussi nous sommes les premiers responsables d'une telle situation. Ce n'est pas seulement la faute à ce personnage un peu étrange qui est Elon Musk. Je ne le défends pas, mais je dis simplement qu'on peut évidemment essayer de monter des systèmes réglementaires de plus en plus précis et s'inquiéter du fait que l'on ne puisse plus tout à fait espionner ce que les conversations à bord d'Air France. Oui, mais quels moyens avons-nous pris en amont ? Les méga-constellations, ce n'est pas une invention d'Elon Musk. Il y a 15 ou 20 ans, j'ai vu ces projets-là dans les bureaux d'études du CNES. Mmh. Et nous ne les avons pas développés. J'en suis désolé. Mais c'est simplement pour dire que la réflexion juridique, elle est vraiment essentielle, mais elle ne peut pas être détachée d'une analyse
de l'opportunité
sociale, politique, économique.
Alors, voilà. En termes de défis...
Elle est donc d'autant plus importante pour préparer la suite.
Oui,
c'est ça la question. C'est comment vous, les juristes, vous préparez, non pas de gérer les problèmes actuels que l'on a, de savoir comment on va pouvoir espionner les conversations sur Air France, mais comment, par rapport aux technologies qui vont venir, aux situations qui vont venir demain, le droit pourra nous aider à mieux les gérer, à mieux gouverner.
Alors on va revenir aux questions juridiques, purement juridiques, dans un instant. Mais pour finir de rebondir, outre l'aspect commercial sur les défis politiques que vous évoquez, l'enjeu est aussi, depuis le début d'opérations militaires, notamment donc sur le sol ukrainien, l'utilisation, c'était un peu cité, de l'espace extra-atmosphérique pour renseigner sur les mouvements au sol dans le cadre de conflits armés. Donc là, effectivement, on passe d'un enjeu commercial à un défi politique. Et la question, quand vous évoquiez, Rosaire, je crois, la détention par les entreprises privées, Katia aussi Couton, la question de la détention par les entreprises privées de ces méga constellations est un peu autre. Est-ce que Katia Couton peut-être voulait réagir
à cette question et de manière générale au sujet que l'on traite aujourd'hui, cette question de la réglementation juridique par rapport aux activités privées, je pense que là-dessus, sur ce sujet-là, il ne faut pas jeter les grands traités qui ont été adoptés dans les années 1960 et 70. On leur reproche beaucoup de choses, mais ils ont cette qualité fondamentale d'être suffisamment large et d'avoir été rédigés par des personnes qui ont anticipé le fait qu'il y aurait des évolutions technologiques qu'ils ne connaissaient pas à l'époque de la rédaction de ces traités. Et donc, les grands principes qui couvrent le droit spatial continuent de s'appliquer, y compris aux nouvelles technologies détenues par des entreprises privées. Donc, on a quand même un cadre juridique qui est suffisamment clair, qui certes laisse des points d'incertitude, bien sûr, mais qui quand même régit de façon suffisamment claire les grands principes, à savoir que de facto, même une entreprise privée comme Starlink dépend de l'État américain sur plusieurs aspects. Déjà en matière juridique pure, tout satellite envoyé par Starlink doit être approuvé par l'État américain. Et accessoirement, d'un point de vue un peu plus financier, économique, il faut aussi se souvenir que les grandes entreprises américaines dépendent des fonds public, puisque que ce soit Starlink ou de manière générale SpaceX ou des autres grandes entreprises américaines dont on entend toujours parler, en fait, elles bénéficient d'un financement public par l'État américain. Il n'existe pas pour l'instant un marché qui fonctionne à lui seul sans financement public dans le domaine spatial. Donc ça, c'est un premier point. Sur la question de l'usage militaire de l'espace, ou du moins à des fins militaires, ça a toujours été l'un des usages de l'espace extra-atmosphérique. On appelle ça le terme, on utilise le terme double usage, enfin dual use, dans le spatial. Donc les satellites, que ce soit les méga-constellations ou autres, les satellites ont toujours été utilisés à des fins pacifiques et stratégiques. Et c'est aussi le cas du coup des méga-constellations aujourd'hui, où on a un usage des méga-constellations, par exemple au-dessus du sol ukrainien, qui permettent de fournir des infrastructures aux Ukrainiens, notamment l'accès à Internet, puisque les infrastructures ukrainiennes sont spécifiquement visées par la Russie sur le territoire. Accessoirement aussi, les satellites d'observation de la Terre permettent d'observer l'avancement du front. Depuis les satellites, on observe le front entre l'Ukraine et la Russie, et ça permet aussi d'avoir une analyse aussi par l'IA, pourquoi pas, une analyse des enjeux stratégiques au moment T.
Alors peut-être que dans les enjeux juridiques, vous allez rebondir peut-être sur cette question pour me dire ce que vous en pensez, mais dans les enjeux juridiques qui seraient... pas suffisamment anticipé dans ces traités fondamentaux que vous citez, on a une question qui émerge aujourd'hui avec l'IA, c'est celle de la responsabilité des actions et des décisions qui sont prises par des agents artificiels. Alors là, je fais le parallèle avec des textes beaucoup plus de portée moindre. Là, je pense à notre réglementation interne, typiquement liée à la responsabilité, que ce soit au plan civil ou au plan pénal. On a vu qu'il y a quand même des limites dans notre législation existante. Donc c'est vrai qu'à l'époque où les cadres juridiques et réglementaires du droit international que vous évoquiez avaient été posés, la robotique, a fortiori l'IA, était quand même loin. Ça relevait presque... Enfin, c'était de la science-fiction. Donc, qu'en est-il aujourd'hui quand on a ici des questions qui se posent comme ça, liées à des dommages, finalement, résultant de ces outils d'IA associés aux engins spatiaux ?
Alors, en droit international, je vais me permettre de répondre sur cette branche-là du droit, puisque c'est ma spécialité. On a un système de responsabilité spéciale qui a été mis en place, qui est différent de celui de la responsabilité classique des États sur la scène internationale. Sur la scène internationale, on a une responsabilité des États qui se fait pour faits internationalement illicites. Je me réfère aux articles de la Commission du droit international de 2001, alors que pour le droit d'espace, on est sur une responsabilité que l'on pourrait qualifier de objective, c'est-à-dire que la responsabilité des États est plus large, on appelle ça parfois de la liability, et donc on est sur une règle spéciale par rapport à la règle générale du droit international sur la responsabilité des États. Ça nous intéresse parce que, de ce fait, vu qu'on a une convention sur la responsabilité des États pour les dommages causés par des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, cette convention-là, donc c'est une lex specialis relative à la responsabilité des États en matière de l'espace extra-atmosphérique avec la Convention sur la responsabilité pour les dommages causés par des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Et ça nous intéresse dans le domaine de l'IA, puisque l'attribution à l'État est bien plus simple en matière de responsabilité dans le domaine spatial, dans l'application de cette Convention, qu'elle ne le serait en responsabilité classique des États dans la scène internationale, puisque même si une action a été déterminée par une intelligence artificielle, de facto, ce qui compte, ça va être quel est l'état de lancement. Donc, on a la qualification de ce qu'on entend par un état de lancement, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais la responsabilité de l'État sera celle de l'état de lancement, peu importe si la décision a été prise par un individu ou une intelligence artificielle. Donc, au niveau du droit international, le fait d'avoir un régime plus large qui couvre davantage, enfin, qui impose davantage à l'État des responsabilités, plus que dans d'autres régimes, ça permet de limiter en partie la difficulté que pose l'attribution de la responsabilité à un État. Là où les questions se posent, c'est davantage au niveau interne, avec en droit national, donc dans le droit de chacun des États, comment les États veulent réglementer l'usage de l'IA et notamment à quel point ils sont prêts à prendre des risques pour leur responsabilité qui leur appartient sur la scène internationale pour des actions ou des dommages qui auraient été déterminés par une intelligence artificielle.
Juste pour finir sur cette question liée à la responsabilité, est-ce que Rosaire, oui, vous voulez réagir en lien avec vos travaux sur la question des dommages ?
Oui, merci. Alors, on y a la convention sur la responsabilité internationale que Katia a nommée. Mais si c'est vrai qu'a priori, les États répondent des dommages par les, occasionnés par l'industrie privée, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle d'un vide juridique qui a été souligné par quelques auteurs, parce que ce n'est pas si facile d'attribuer les dommages à l'État. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a des dommages dans l'environnement spatial, tu dois prouver qu'il y a l'intention de causer ces dommages. Ce n'est pas seulement comme une responsabilité stricte où tu ne dois pas prouver qu'il y avait une intention pour causer les dommages. On appelle ça en anglais « fault ». Et c'est très important car si tu utilises, si tu utilises un satellite avec de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, c'est la responsable d'un dommage, comment est-ce que tu peux prouver que l'État est responsable ou a l'intention de causer ces dommages? C'est la question ça, où on parle. Bien sûr, on a après des questions au niveau interne des États et comment distribuer ces dommages, la responsabilité. Mais si vous lisez des articles sur ces sujets, et j'ai aussi rédigé dans ces sujets moi-même, la question c'est sous ces fault éléments qu'on a dans la convention sur la responsabilité. Et alors, on ne peut pas parler directement de l'État comme responsable parce qu'on ne peut pas prouver que c'est l'État qui avait l'intention de causer ces dommages.
Et alors, la responsabilité, c'est aussi, là, on l'évoque évidemment au plan civil, mais est-ce que c'est aussi un champ sur lequel vous travaillez au plan pénal? Parce qu'on parle d'objets qui sont possiblement piratés ou compromis de plus en plus par des cyberattaques. La responsabilité, c'est aussi celle-ci. Quelles précautions, ici, on doit prendre en la matière? Est-ce que, Rosa, vous avez travaillé sur cette question?
Oui. Exactement. À mon avis, quand on parle de responsabilité pour l'IA à l'espace, et une manière d'attribuer ces responsabilités à l'État, c'est précisément de parler d'une omission. Alors, si par exemple l'État n'a mis en place des mesures pour éviter que ces satellites puissent être accédés par des agents non estatal, alors on peut peut-être essayer d'attribuer sa responsabilité à l'État. Et alors, c'est très intéressant que vous avez souligné ces points, car à mon avis, c'est la clé de ces sujets. Parler d'une omission au lieu de parler d'une action et de ses fautes, qui c'est central à la convention sur la responsabilité, que parce que d'une autre manière, ça serait très très difficile d'attribuer la responsabilité à l'État dans un moment politique et stratégique et technologique où c'est l'industrie privée qui développe des avancements technologiques et qui les inclut dans l'industrie spatiale. Alors, pour moi, la clé, c'est de placer les focus à l'omission au lieu de l'action.
Est-ce que, Jacques Arnoux, vous voulez réagir à ces propos de juriste, mais pour le dernier temps de cet échange, un regard, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui peut aussi être haute, les défis éthiques et risques sociaux que tout ça pose?
Je pense qu'en vous écoutant, je me dis au fond, l'espace a vraiment une place à tenir dans nos réflexions sociales, politiques, juridiques actuelles, parce qu'il présente des caractéristiques un peu singulières. On parle beaucoup, là, depuis le début, des moyens de contrôle, d'observation, de surveillance, à la fois de ce qui se passe dans l'espace, mais aussi depuis l'espace, de ce qui se passe sur Terre. Donc ça, ce qui se passe sur Terre, je dirais, à la limite, c'est pas trop, mais l'espace est un... On ne peut pas se cacher dans l'espace, en particulier sur les activités autour de la Terre. Et en même temps, avoir une connaissance précise de ce qui s'y passe est extrêmement compliqué. En fait, nos activités peuvent être discrètes simplement parce que les autres ne peuvent pas les voir et non pas parce que je cherche à les cacher. Je ne peux pas les cacher. Et donc, il y a déjà un enjeu de surveillance, en tout cas de moyens qu'on est capable d'investir pour savoir ce qui s'y passe. C'est assez incroyable. Et pendant très longtemps, et ça a été dit durant cette émission, c'était surtout les Américains et les Soviétiques qui possédaient ces moyens-là pour des raisons tout à fait autres. C'est qu'en fait, ils surveillaient l'un et l'autre et ils avaient les moyens, les télescopes et les radars pour regarder ce qui se passait au-dessus de chez eux. Et c'est seulement beaucoup plus récemment que d'autres États, d'ailleurs dont la France, se sont dotés de moyens d'ailleurs plus limités que ceux des Américains et des Soviétiques, aujourd'hui sans doute que les Chinois ont aussi des moyens extrêmement précis, pour tâcher déjà de savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que ce que vient dire Roser, c'est pouvoir qualifier un événement qui s'est passé, qui en est la victime, qui en est éventuellement l'acteur, c'est extrêmement compliqué. Parce que, je le disais tout à l'heure, ça se passe à des milliers de kilomètres, c'est des objets qui peuvent être relativement réduits. Donc, d'abord savoir, avant même de pouvoir juger et d'agir, ou ne pas agir, puisqu'on parlait effectivement d'omission, c'est un tel enjeu que, pendant longtemps, je ne parlerai même pas d'omission, je parlais d'inadvertance. En fait, on n'avait pas les moyens de savoir quels étaient les actes que l'on posait un peu, et surtout les conséquences de nos actes. Donc ça demande l'acquisition d'expérience, ça demande toujours d'acquérir aussi de plus en plus de moyens. Et puis aussi, ce que disait très bien Katia tout à l'heure, et je suis d'accord avec elle, c'est que ne pas oublier qu'on a aussi des moyens, des principes, le droit. Beaucoup de gens aujourd'hui disent... beaucoup de gens ignorent qu'il y a un droit spatial, et quand ils le découvrent, ils disent « oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien, parce que c'est un vieux truc, il y a 50 ans, ou même plus. » Mais non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Il y a des principes qui ont été posés, qui sont des fondements essentiels à la réflexion et à l'action actuelle. Donc, revenir là-dessus, non pas pour s'y rester, mais pour pouvoir construire la suite. Et puis, une fois encore, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas être totalement naïf. C'est pas parce qu'aujourd'hui le caractère, l'usage militaire du spatial était mis en avant avec le conflit en Ukraine, il y a 60 ans que ça dure. De toute façon, le militaire a été le milieu qui a poussé au développement du spatial, au moins aux États-Unis, un peu moins en France, parce que les scientifiques étaient aussi très présents, mais on a toujours été là. SPOT, un satellite civil, entre guillemets, qui était en particulier fondé par, enfin, imaginé et mis en place par la France, le principal client, c'était l'armée américaine. Donc, le caractère dual, c'est vraiment une réalité spatiale qu'il faut reconnaître, avec laquelle il faut travailler. Mais une fois encore, travailler en réfléchissant, c'est une source d'expérience, une source de réflexion, et la suite va se construire sur cette expérience-là. Donc, une fois encore, ne soyons pas trop étonnés, ne soyons pas trop naïfs, utilisons les leçons de l'histoire. Et c'est comme ça que je disais, les juristes, comme je rencontre à l'occasion, comme vous aujourd'hui, je vois bien que, enfin, me semble-t-il, que votre défi, c'est de nous proposer, ce que je disais tout à l'heure, une gouvernance pour la suite qui soit vraiment fondée sur la situation réelle. C'est-à-dire la puissance du privé, mais comme vous le disiez, Katia, un privé qui dépend beaucoup du public en termes de financement et aussi en termes d'autorisation, le Starship ne peut pas décoller si l'administration américaine ne donne pas l'autorisation à Elon Musk, malgré tous les moyens de ce monsieur Musk. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut poser, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut raisonnablement construire la suite.
Eh bien, je pense que nos deux doctorantes l'ont entendu aujourd'hui, les juristes globalement. Merci pour cet échange mêlant droit et réflexion effectivement plus globale, l'éthique étant au centre de tout ça.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, gosse un peu flou, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille.
La bonne étoile, nous dit M, on va continuer à la chercher un peu ensemble, avec une lecture pour terminer cette émission, lecture d'un passage issu de votre dernier ouvrage donc, Jacques Arnoux, Des colonies dans l'espace, l'ultime utopie, paru aux éditions Odile Jacob en juin dernier.
Car nous devons bien l'admettre, si l'univers échappe encore en grande partie à notre connaissance, dans ses limites spatiales et temporelles comme dans sa structure et sa composition, il nous sert à la fois d'écran et de miroir. Un écran, parce que nous avons pris l'habitude d'y projeter notre quiétude comme notre angoisse, nos espoirs comme nos craintes. Nous demandons la lune, mais craignons que le ciel ne nous tombe sur la tête. Nous levons les mains vers le ciel, mais multiplions les paratonnerres pour échapper à la colère de nos dieux. Un miroir, surtout depuis que nous sommes devenus capables de nous y rendre et d'y réaliser nos projets. Nous avons commencé à souiller de nos débris les orbites autour de la Terre comme nous l'avons fait avec les terres et les mers, les eaux et l'air de notre planète. Nous envisageons d'exploiter les ressources minières de l'espace comme nous le faisons du moindre filon de nos sous-sols.
Alors Jacques Arnoux, est-ce que vous voulez réagir pour faire parler ces quelques lignes en conclusion ?
Bien d'abord vous remercier de cette lecture. Dans ce passage, j'ai voulu exprimer ce qui aujourd'hui pour moi est une, non pas une évidence, mais un constat, c'est que ce que nous avons évoqué aujourd'hui, l'espace extra-atmosphérique, c'est ce que j'appelle l'espace obscène. Alors je m'explique, c'est-à-dire que l'espace aujourd'hui met en scène nos activités humaines. Pendant longtemps, il n'a été que l'écran, enfin, le ciel était l'écran sur lequel nous projetions nos rêves, nos craintes, et nous y mettions les dieux, les esprits. Mais nous n'y avions pas accès. Aujourd'hui, nous y avons accès. Et nous y menons des activités, nous en avons parlé durant toute cette émission. Et ces activités sont, pour certaines, sont extraordinaires, sont superbes. C'est de la recherche, c'est l'homme et la femme dans l'espace, c'est l'étoffe des héros, très bien. Mais il y a aussi des activités dont nous sommes moins fiers. Nous en avons parlé, les débris spatiaux, la surveillance, l'espionnage, et même certaines activités militaires offensives. Et cela, nous ne pouvons pas le cacher, parce que l'espace est devant nous. D'habitude, les débris, on les met dans les poubelles, on les enterre, on les cache, on les enfouit. Et là, c'est devant nous. Et brutalement, ça nous fait peur. Nous en avons peur de l'espace. Et donc, il faut, j'allais dire, utiliser cette peur, c'est ce que disait Hans Jonas, mais utiliser cette peur d'une manière positive. Nous en inquiéter, tâcher de gérer ces côtés néfastes, et nous en avons aussi parlé, à diminuer, d'être moins polluant, d'être moins agressif, je ne sais pas, mais aussi d'en profiter comme étant un élan, en disant ben, comment faire mieux demain ? Tirer les leçons du spatial pour mieux préparer ensemble demain.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Katia Coutan, doctorante en droit international de l'espace extra-atmosphérique au Centre de droit international de l'Université Paris-Nanterre.
Rosaire Almenard, doctorante en droit à l'Université de Valence en Espagne et membre du conseil consultatif de la génération spatiale. Et enfin Jacques Arnoux, chargé de mission au Centre national d'études spatiales. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.